Vous êtes avec SBS French.
Eh bien, comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour, Jean-Noël. Bonjour à tous.
À la une, le deuxième tour des élections régionales qui se tenait dimanche. Avant d'analyser les résultats, le premier constat qui s'impose, c'est le très faible taux de participation.
Oui, comme au premier tour, le taux d'abstention est massif. Il n'y a pas eu de sursaut républicain, citoyen, sursaut électoral ou autre. Appelez-le comme vous voulez, le résultat est le même, c'est-à-dire 2/3 des électeurs ne se sont pas déplacés pour aller voter. Au premier tour de ces élections régionales, le 20 juin, le taux d'abstention s'était élevé à près de 67%. Là, on est un petit peu en dessous, légèrement, mais dans les mêmes eaux, plus de 65% d'abstention, 65,7 exactement. Les appels des candidats et des états-majors des différents partis politiques entre les deux tours n'y ont rien changé. Les Français, les électeurs ont boudé ce scrutin dans des proportions jamais vues, à l'exception du référendum de 2000 sur le passage du septennat au quinquennat. Mais là, on parle d'une élection. En 2015, lors des dernières élections régionales, l'abstention avait atteint 60% au premier tour, mais il y avait eu un rebond au deuxième tour, 50% de participation. Là, dimanche, 31 millions de Français ont sciemment choisi de ne pas aller voter.
Comment peut-on expliquer un tel taux d'abstention ?
Oui, bien les raisons que l'on peut invoquer, tentative de décryptage, de ce désintérêt, ces raisons, elles sont multiples. Alors, le contexte pandémique, oui, bien entendu, après plus d'un an de vie rythmée par les restrictions liées au Covid-19, les Français sûrement ont d'autres envies et priorités, même inconscientes, que d'aller voter un dimanche, alors que la vie reprend progressivement à l'extérieur. C'est comme si depuis un an, l'espace médiatique avec la pandémie et les messages quotidiens de prévention du gouvernement, des ministres, des autorités sanitaires avaient saturé l'espace et que les électeurs, en ce mois de juin, ne demandaient qu'une chose, qu'on arrête de leur dire ce qu'ils devaient faire. Et ces injonctions de devoir aller voter, de remplir son devoir citoyen, l'importance de glisser son bulletin dans l'urne, etc., etc., ces messages-là ne passent plus, ils sont même contre-productifs. Alors forcément, cela discrédite grandement la démocratie, cela dénote un malaise profond. Il y a sûrement des pistes à explorer. Et dimanche soir, sur les plateaux de télévision, quand les résultats sont tombés et ce taux d'abstention, eh bien, nombre de responsables politiques ont avancé l'idée qu'il faudrait rendre possible le vote à distance, le vote électronique. D'autres vous disent à l'inverse que cela ne changerait rien, que le malaise est bien plus profond et qu'aujourd'hui, plus que dans les urnes, quand les gens ont des choses à dire, ils le font dans la rue, en manifestant, comme l'ont fait les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes il y a 2 ans, qui avait permis, à la marge, oui, de faire bouger le gouvernement avec des mesures qui avaient été prises. Ce serait le meilleur moyen, estiment nombre d'électeurs, de faire bouger les lignes, de se faire entendre, descendre dans la rue. Voilà où on en est. Ajoutons que le scrutin élections régionales et départementales n'aident pas à la mobilisation. Pour la plupart des électeurs, il faut bien le dire, cela reste assez flou. Alors on va élire des conseillers régionaux, mais dans le millefeuille territorial français, toutes ces strates administratives, il est difficile de comprendre, de savoir exactement quels sont les champs d'action de ces élus régionaux. Autant quand on vote pour une présidentielle et le chef de l'État, pour des élections législatives et les députés à l'Assemblée nationale, pour des municipales avec le maire de la ville, là les choses sont assez lisibles. Là, le rôle des conseillers régionaux avec des candidats le plus souvent inconnus du grand public n'aide pas à mobiliser les électeurs.
Venons-en aux résultats proprement dits. Quels sont les grands enseignements du scrutin ?
Bien, les tendances qui s'étaient affirmées lors du premier tour, elles se sont confirmées dimanche lors de ce deuxième tour des régionales, à savoir déjà que le Rassemblement national, parti d'extrême droite de Marine Le Pen, ne gagne aucune région, alors qu'il y a encore un mois, la question était plutôt de savoir combien de régions le parti en gagnerait. Les sondages nous avançaient avec quasi certitude, nous disait-on, que le Rassemblement national, au plus haut en position de force, raflerait la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le nord, les Hauts-de-France, minimum de régions. À l'arrivée, c'est un camouflet pour l'extrême droite et pour Marine Le Pen, qui se voyait déjà en position de force après ces régionales en vue de l'élection présidentielle, bien sûr, de l'an prochain. Là, il apparaît que particulièrement les jeunes et les classes populaires ne sont pas allés voter et Marine Le Pen va devoir trouver de quoi rebondir pour 2022. L'autre enseignement, c'est que la droite classique, on va dire les Républicains et divers droites d'un côté, et la gauche autour du Parti Socialiste et des alliés communistes et écologistes sont les grands vainqueurs de ce scrutin. La droite gagne 7 régions en métropole avec notamment un trio en tête d'affiche, Laurent Wauquiez pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Valérie Pécresse pour l'Île-de-France et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Ces trois-là étaient déjà à la tête de leur région. Ils les gardent et ils ne cachent pas qu'ils ont des ambitions présidentielles. Xavier Bertrand a dégainé le premier, il l'a déjà officiellement annoncé. Alors, il n'y aura qu'un fauteuil pour trois, mais ce qui est clair, que ce soit Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez ou Xavier Bertrand, ils se campent dans une posture d'opposition au président de la République, Emmanuel Macron. Et après ce scrutin des régionales, la droite, les Républicains sont persuadés qu'il y a un espace politique pour exister à la présidentielle et faire mieux que François Fillon en 2017 qui n'avait pas passé le premier tour et donc ne pas revivre un second tour dans un an entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À gauche, le Parti Socialiste, la gauche dans son ensemble, les alliés écologistes, fait le même constat en gardant 5 régions, plus la Réunion en Outre-mer. Eh bien, la gauche veut croire en son étoile pour 2022, mais là aussi, il va falloir régler les questions d'ego, de leadership pour 2022. Quel candidat ? Candidat socialiste, candidat écologiste, comment éviter la multiplication des candidatures. Enfin, comme attendu, La République en marche, le parti du chef de l'État, Emmanuel Macron, n'a pas pesé lourd dans ce scrutin, moins de 10% des suffrages dans l'ensemble à ces élections régionales au deuxième tour, et seulement comme lot de consolation, eh bien quelques élus, conseillers régionaux par-ci, par-là. La République en marche, parti créé par Emmanuel Macron, en 2016, ce parti qui lui avait servi de tremplin pour se lancer avec le succès que l'on sait dans la présidentielle de 2017. La République En Marche souffre d'un manque criant d'implantation territoriale, mais, et c'est là tout le paradoxe, cela n'a pas d'incidence, a priori, sur la cote de popularité du chef de l'État, et il en joue parfaitement. Aujourd'hui, à 10 mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron reste le mieux placé de tout l'échiquier politique pour l'emporter de nouveau, et donc pour être réélu pour un second mandat. Affaire à suivre.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée, à bientôt.
Merci, merci. À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.